RMC, le lundi 21h, 22h, c'est le Tony Parker Show. François Giuseppi et Tony Parker.
Depuis New York, où les Spurs vont jouer face aux Knicks, les Knicks où forcément on accueille également Tony dans cette émission, monsieur Jacques Monclar qui reprend son souffle, sa respiration. Oula, attention Jacques, faut pas non plus.
La pollution sur Paris. Bonjour.
Salut Jacques.
Bonjour, bonjour.
Ça va Tony ?
Salut Tony.
Ça va les gars, vous allez bien ?
Très bien, en pleine forme. Petit point météo à New York, tout va bien ?
Tout va bien. Ça va, il fait beau. Pas trop mal.
Pas trop mal. Eh ben écoute, tu as bien de la chance. Nous sommes dans le brouillard dans cette fin de journée sur RMC. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec un programme chargé. On ne parlera pas que basket ce soir dans ce Tipeee Show, Tony.
Un petit peu de hand. On va avoir Nicolas Karabatic. On va parler un peu aussi handisport avec Marie-Émilie Le Fur. Et bien sûr, après, on aura du basket avec Vincent Collet et Hervé Dubuisson.
Un très grand champion, un monsieur du basket, tout comme Jacques Monclar, tout comme Tony Parker et tout comme vous, bien évidemment, au 32-16. On attend vos questions à nos invités, à Tony, à Jacques, bien sûr, sur le hashtag RMC Live, sur les réseaux sociaux, tout ça jusqu'à 22h. Mais d'abord, direction les matchs en cours. Gravelines-Orléans, c'est la proie de basket, Samuel Duhamel.
Salut François, effectivement, et pour l'instant, ça pique, hein. Ça pique pour les Orléanais qui sont menés de 21 points, 36 pour Gravelines, 15 pour l'équipe de Pierre Vincent avec une table de marque parfaitement équilibrée. Pour l'équipe maritime, 7 points pour Dove, 7 points pour Gray et ça marque de partout. Donc très très dur pour l'instant, même si là c'est Antoine Aito qui réduit le score, 36-17 pour Gravelines.
À tout à l'heure, Lens-Nancy, c'est du foot cette fois à la Ligue 2, Jean Baumel.
Ouais, bonsoir François, 0-0, 32 minutes de jeu, un match on va dire assez équilibré dans le jeu, mais au niveau des tentatives et des actions dangereuses, ce sont les Nancy, hein. Tout à l'heure on a vu à la 20e Buzyn qui a bien frappé vers le but et superbe arrêt de la part de Dell, alors que là on réclame un pénalty du côté de Lens, mais il n'y a rien du tout. 0-0, 33 minutes de jeu entre Lens qui lutte pour le maintien et Nancy pour être en haut du classement.
Direction le tournoi de tennis de Paris, Eric Salio, match en cours franco-français. Gaël Monfils est face à Benoît Paire, Eric.
Oui François, drôle de match entre ces deux Français puisque Gaël Monfils s'était détaché 6-2, 4-0, pensait que c'était plié, Benoît Paire avait la tête ailleurs et l'Avignonnais sous les yeux de Scheim, sa petite amie, bien, s'est complètement ressaisi et nous sommes à 6-5 dans le deuxième set pour Benoît Paire avec peut-être un tie-break à venir et non toujours pas, 40 à Benoît Paire est à 2 points de ravir cette deuxième manche à Gaël Monfils qui n'en croit pas ses yeux.
Parti pour ce Tipeee Show jusqu'à 22h.
RMC, le Tony Parker Show. Tony Parker, Tipeee Inside.
Où Tony, avec Tim Duncan et Manu Ginobili, vous êtes rentré un petit peu plus dans l'histoire de la NBA puisque vous avez remporté un 541e match. C'était cette nuit à Boston. Vous dépassez le trio Bird, McHale et Parrish, ce qui fait de vous le trio le plus victorieux de l'histoire de la NBA, Tony.
Ouais, c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand tu nous compares à ce trio-là, que moi quand j'étais petit je les regardais beaucoup, les Boston Celtics et après aussi les Lakers pendant les playoffs, on les avait dépassés, c'est vrai, c'est deux trios de légendes et donc t'as du mal un peu à réaliser ce que tu viens de faire et donc on a eu une carrière incroyable avec Manu et Tim et ça continue et j'espère que on ira encore le plus loin possible et essayer de gagner encore une bague.
Ça représente vraiment quelque chose, malgré tout ce qu'on vient de se dire et les 10-15 ans de carrière que tu as passé en NBA?
Bien sûr. Bien sûr, non, c'est quand même énorme. C'est beaucoup de matchs, beaucoup de carrières, enfin, c'est beaucoup de victoires, beaucoup de saisons. Il faut beaucoup de choses qui aillent dans le bon sens pour réaliser un record comme ça.
540 matchs victorieux, Jacques. Il y en a qui font pas 540 matchs tout court en NBA.
Oui, bien sûr. Non, mais c'est un accomplissement monumental. Il faut rester longtemps dans la même franchise. Il faut pas être blessé. Il faut rester à un niveau d'excellence dans une franchise qui joue toujours le haut. C'est absolument monumental comme statistique ensemble. Et puis bon, le prestige des joueurs qui te précèdent. Et je réfléchissais à quel est le trio qui pourrait s'en approcher sans jamais l'effleurer. Parce que là, ils vont pas être loin de 600, non, pas de 180, il y avait 500, ils vont approcher les 600. Et puis il y a que Ibaka, Westbrook et Durant qui jouent depuis longtemps ensemble à un vrai niveau d'excellence. Donc tu vois, rien que la succession est un peu dans l'image des prédécesseurs. C'est un trio qui restera dans l'histoire de la Ligue. C'est...
Et pour rendre hommage certainement au Big Three de San Antonio, Lionel est avec nous au 32-16. Salut Lionel.
C'est pas Lionel, c'est Pierre.
Pas grave. Bah Pierre une fois, ça va?
Ouais, ça va, impeccable.
On t'écoute Pierre, bienvenue.
Salut Pierre.
Écoute, ouais, déjà, je suis très fier de passer à l'antenne et de parler à Tony et Jacques, hein, c'est un honneur. Par rapport à ce que tu as accompli, Tony, je voulais te poser une petite question. Est-ce que tu, bah, t'es quand même le petit jeuneau par rapport à tes deux compères du Big Three? Est-ce que tu leur mets la pression pour, entre guillemets, qu'ils fassent une carrière la plus longue possible pour élever justement la barre encore plus haute au niveau de la compétence que vous avez fait, quoi?
Non, pas du tout, hein. C'est juste Tim et Manu, ils continuent à jouer et ils prennent du plaisir dans notre équipe. Après, moi, j'ai jamais forcé quoi que ce soit, hein. C'est fait naturellement.
Ils avaient 40 ans, donc c'est vrai que moi, je me dis, ça serait tellement énorme pour toi qu'ils passent encore 2, 3, voire 4 ans. Là, je pense que si vous atteignez les, je sais pas, peut-être pas 1000 matchs, mais 800, 900 maintenant, ça serait 900
oui.
Si pendant 3 ans.
À 50 ans, Duncan. Vas-y.
C'est des matchs gagnés.
Ce serait énorme. On aurait un Français à tout jamais marqué dans l'histoire de NBA. Tout en haut, imbattable, ça serait fantastique. Donc, motive-les, Tony, motive-les.
Bah, on verra bien, on verra bien. Ça fait beaucoup, là.
Ça fait beaucoup, ouais. Tu dois jouer jusqu'à 60, 65 ans?
Non, je crois pas.
Tu m'étonnes.
Non, Tony, il faut que tu restes à l'Asvel pour finir ta carrière. Après, motivé pour qu'il finisse
à l'Asvel. À 70 ans.
Merci Pierre. À bientôt Pierre.
Salut.
À très bientôt d'être venu au 32-16. Bien sûr, on va revenir sur cette première semaine de NBA. 3 matchs pour vous, 2 victoires, une défaite. Qu'est-ce que tu retiens de cette semaine d'ailleurs positive au niveau du classement et au niveau du jeu certainement?
Ouais, non, c'est une bonne semaine. Après, on sait très bien que ça va prendre du temps. On a quand même, par rapport à notre équipe, la moitié a changé. On a pas mal de nouveaux joueurs, il faut qu'on intègre surtout Lamarcus et David West, donc ça va prendre du temps, mais pour l'instant ça va, ça se passe bien, on arrive à gagner les matchs et donc on va continuer à progresser.
Alors tu avais un commentateur attitré pour cette semaine puisque Jacques a commenté et Oklahoma et Boston.
Et je ferai New York demain matin aussi. Ouais, il y a des bonnes choses. Moi tout de suite j'ai envie de dire à Tony des trucs. C'est pas si facile que ça de jouer avec les Spurs. Et on s'en rend compte pour David West, pour Aldridge, pour Aswell Butler, non?
Ah ouais, non, mais c'est clair que ça va prendre du temps. Il faut que tout le monde trouve un peu son rôle. Il y a des rôles qui vont changer. Moi, j'en ai déjà parlé la semaine dernière du mien. Et tu seras obligé de faire des sacrifices, hein. De toute façon, il y a qu'un ballon sur le terrain. Et il faut qu'on joue ensemble et qu'on gagne les matchs. C'est ça le plus important.
Ouais, il a son petit rectus, là, Jacques. Il est content.
Ouais, bien sûr. Il a raison. Mais la structure de l'équipe change terriblement. Il y a deux options offensives privilégiées.
Bah, on fait beaucoup de post-op, quoi. On fait beaucoup de post-op.
Vous avez 5 ou 6 joueurs qui jouent cette position de post-up, qui peuvent la jouer, ce qui fait d'ailleurs le régal de Boris qui fait un super début de saison.
Ouais, mais, c'est clair.
Moi je suis dubitatif sur Tony. Tu penses que en restant comme ça dans la raquette, physiquement vous allez pouvoir tenir contre les avions de chasse en poste 5 et que par exemple Aldridge, il était habitué à jouer aussi avec Robin Lopez, quoi. Il jouait pas tout le temps en 5. Je sais pas, vous avez perdu Baines, c'est Splitter. Alors vous jouez toujours du Spurs basketball, hein, on le retrouve, même s'il y a plus de post-up, tu l'as dit. Tu penses pas qu'ils vous font un poste 5, enfin, tu vas pas me le dire, mais punaise de la force physique, quoi.
Un pivot un peu mastoc.
Pas intelligent,
un peu mastoc, après, tu sais, toutes les équipes NBA, ils jouent small ball, hein, surtout à l'Ouest. Quand tu regardes Golden State, tu regardes Houston, ils vont tous small ball. Donc, je sais pas si on en a vraiment besoin d'un gros 5, comme tu dis, qui va bastonner. Lamarcus, il est quand même costaud, hein. David West, il est très costaud aussi.
J'étais surpris de Lamarcus Aldridge, tant il est long et costaud. Mais tu vois, un soutien, quoi, un soutien. un Yann Lamy,
je vois ce que tu veux dire.
Je sais pas si
on en aura vraiment besoin.
Bon, c'est un pari. En tout cas, hier, vous les avez étouffés. De toute façon, Boston, ils essaient de jouer contre les Spurs. Et comme les Spurs sont plus forts, ils ont joué contre un miroir plus fort. Et à la fin,
ils
se sont fait un peu peur, mais ils ont bien ciblé Avery Bradley, j'ai trouvé. Enfin, voilà, ils se sont fait un peu peur. Aldridge a été bon hier soir.
24 points, c'est son match référence hein, pour l'instant.
Ouais, mais bon, pour l'info, on a fait que 3 matchs, faut pas s'inquiéter.
Oh, mais on s'inquiète pas, on n'est pas inquiet, bien au contraire. Dans ce Tipeee Show sur RMC, nous accueillons Vincent Collet dans quelques instants. Tony et Jacques restent bien évidemment avec nous. Nous sommes depuis New York où les Spurs jouent face aux Knicks dans la nuit de lundi à mardi. C'est le Tipeee Show sur RMC. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h, mais on fait un détour par nos directs. Lens face à Nancy, la Ligue 2, Jean Baumel.
Il reste 4 minutes avant la mi-temps. 0-0 pour l'instant entre les Nordistes et les Lorrains, c'est un match toujours aussi équilibré, mais on sent que les Nancyens sont beaucoup plus dangereux. On rappelle que Lens n'a qu'un petit point sur le premier relégable et il y a toujours autant de monde à Bollard, mais pour l'instant c'est un match nul à l'issue des 41 premières minutes de jeu.
Et pareil pour toi Samuel Duhamel, Gravelines Orléans le basket.
Oui François, le match en retard de la 6ème journée de proie entre Gravelines 8ème et Orléans 9ème, et pour l'instant les Maritimes ont 20 points d'avance, 44-24 à la mi-temps. Il comptait 25 points d'avance à la 18e minute et puis il y a eu une réduction du score avec notamment un bon Antoine Aito. Mais pour l'instant, c'est très 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 compliqué pour Antoine, pour l'équipe de Pierre-Vincent, François.
Direction le tournoi de tennis de Paris, Eric Salio, match en cours franco-français. Gaël Monfils est face à Benoît Paire, Eric.
Avec une balle de 7 pour Benoît Paire dans le tie-break du deuxième set. Et il la gâche, c'est la quatrième occasion gâchée par Benoît Paire qui, je le rappelle, était complètement largué dans cette rencontre. Il était mené 6-2, 4-0. Il s'est totalement ressaisi, alignant 5 jeux d'affilée. Et là, Gaël Monfils, donc, qui sauve sa peau dans cette deuxième manche. 6-2 Monfils, 6 jeux partout et 6 points partout. Les deux garçons qui tourne. Ouais, avec donc peut-être une balle de 7 à venir de nouveau pour Benoît Paire, mais qui doit quand même repenser aux occasions gâchées, parce qu'il y a eu, comme on dit dans le foot, il y avait la place pour conclure cette deuxième manche et infliger un sérieux coup au moral de Gaël Monfils. Donc 6 points partout, Benoît Paire au service pour se procurer une cinquième balle de 7 sous les yeux de son clan, évidemment, avec Scheim, sa petite amie, au premier rang, alors que lui, Yannick Noah, a quitté la tribune présidentielle il y a environ 10 minutes. Balle de 7, et voilà, qui arrive pour Benoît Paire, la numéro 5, sur une nouvelle faute de Gaël Monfils, qui doit quand même se poser beaucoup de questions, parce que ce match, il l'avait en main. Il était, je rappelle, à 6-2, 4-0 face à un garçon en face qui semblait totalement lâché mentalement cette rencontre, se désintéresser de ce match. Les premiers sifflets en plus pour Benoît Paire, et il s'est ressaisi avec son talent inné, avec des coups venus d'ailleurs. Balle de 7 donc pour Benoît Paire, pour revenir à une manche partout. La cinquième occasion sur le service de Gaël Monfils, elle est ratée encore. 7 points partout dans ce tie-break du deuxième set entre Gaël Monfils et Benoît Paire. On continue, messieurs ? On continue. Donc, on continue avec ce tie-break interminable entre Gaël Monfils et Benoît Paire. On se demande qui va craquer le premier, mais là, les 5 occasions gâchées par Benoît Paire, elles vont être dures à être effacées du disque dur, et c'est peut-être la chance de Gaël Monfils, donc, qui se présente pour servir, mais la première balle n'est pas au rendez-vous pour le Parisien, qui, on le sait, adore jouer à Paris, qui a réussi à atteindre 2 fois la finale ici, mais qui là se retrouve à terre. Les fesses sur le court de Bercy, évidemment, il est battu finalement, Gaël Monfils, malgré une tentative désespérée, mais le smash de Benoît Paire fait mouche. Nouvelle balle de 7 à venir pour Benoît Paire. 8 points à 7 dans ce tie-break du deuxième set, devant des tribunes bien gardies pour cette première journée. C'est vrai que Guy Forget a eu du nez, mais c'était pas très compliqué. Quand il a vu le tirage au sort, il se doutait qu'il fallait mettre ce père, mon fils, en prime time, comme on dit, pour lancer vraiment le tournoi. Eh bien, on n'est pas déçu par ce match franco-français, avec donc une nouvelle balle de 7 à venir pour Benoît Paire. 8 points à 7 dans ce tie-break du deuxième set. 1h30 de jeu. Benoît Paire qui est au service. C'est une grosse chance là pour la vie. Avignonnais, grosse première. Non, les lettres, il va encore servir. C'est dur pour les nerfs. C'est dur pour les nerfs de Benoît Paire qui tout à l'heure était quand même complètement à la rue. Hein, c'est le cas de le dire. 6-2, 4-0. Il avait inscrit seulement 3 points dans le deuxième set. Première balle, service volé de Benoît Paire. C'est pas mal. Ça, ça va être. Et voilà, c'est gagnant. On va avoir droit à un troisième set. 6-2, mon fils. 7-6 Paire à l'instant.
Allez, à tout de suite avec l'entraîneur de Strasbourg et de l'équipe de France. Vincent Collet, c'est le Tipeee Show jusqu'à 22h.
RMC, jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. Parker again. Oh my. François Giuseppi et Tony Parker.
Et Jacques Monclar, depuis 21h jusqu'à 22h, comme tous les lundis, c'est le Tipeee Show. Après l'actu de Tony, c'est la proie, bien évidemment, avec un premier invité basket dans ce Tipeee Show.
RMC, le débrief basket.
Puisque nous sommes en ligne, messieurs, avec Vincent Collet, l'entraîneur de l'équipe de France. Mais d'abord, pour cette saison, l'entraîneur de Strasbourg en Pro A. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir.
Salut, Vincent, ça va?
Salut, Tony. Ça va?
Félicitations, hein, félicitations. Bonne victoire contre Monaco.
Oui, oui. C'est surtout après un match de très moyen à Munich. Donc, ça nous relance. On a bien réagi deux jours après.
Et justement, cette équipe de Monaco, c'est pas trop une équipe de Pro B. Hein. Il est costaud quand même l'effectif.
Oui, oui. Bah, c'est effectivement pour un promu. Ils ont construit une équipe solide. Mais malgré tout, bon, je crois qu'ils ont été surpris par l'agressivité, l'intensité qu'on a pu mettre. Voilà, nous, on revenait d'Euroleague et on a joué un peu sur le même tempo et ça fait vraiment une vraie différence entre les deux équipes.
Et justement, la marque, elle était bien répartie sur ce match. Tout le monde a marqué, le collectif a été présent.
Oui, oui. Et puis surtout, on a des joueurs qui étaient un peu en difficulté, qui commencent à montrer le bout du nez, à l'image de Megali Fofana, qui a fait un très bon match. Et de Mardi Collins aussi, qui a fait son meilleur match hier après-midi.
Vincent, c'est Jacques. À quoi tu imputes cette différence entre votre rendement en Pro A et en Euroleague? Parce que vous êtes dominant, vous transférez peut-être ce que vous vivez en Euroleague, mais tu l'as dit, c'est frustrant à Munich parce que tu as le sentiment que tu peux le prendre, il y a ces pertes de balles, quoi.
Oui, ces pertes de balles et puis aussi un peu de relâchement défensif en deuxième mi-temps, au moment où on est encore dedans. Je pense qu'on a effectivement pas fait un bon match. On en avait fait un excellent la semaine d'avant contre Fenerbahçe, mais on n'a pas retenu la leçon. Je pense qu'en Euroleague, il faut qu'on soit sublimé. Et surtout, à quoi j'attribue tout ça, c'est aussi la capacité d'avoir un effectif où tout le monde fasse quelque chose. Voilà, on est en Euroleague, les clubs français, on est un peu juste. Contre Fenerbahçe, tous les joueurs de Strasbourg ont été bons. Alors, pas tous brillants, mais tous ont produit quelque chose. Et on voit qu'à Munich, vendredi, on a eu plusieurs joueurs qui n'ont pas été utiles. Et on ne peut pas se le permettre, quoi. Voilà, on est en situation où il faut que tout le monde assure un minimum si on veut pouvoir rivaliser. Alors qu'en Pro A, je vois le match d'hier. On a deux, trois joueurs qui n'ont pas été vraiment dans le coup, mais ça n'a pas de conséquences directes. Voilà, si on en a 6 ou 7 qui assurent, c'est suffisant. C'est pas le cas en Euroleague. L'intensité, la consistance du match, tu peux pas avoir de temps faible, ou en tout cas, il faut vraiment les limiter, t'oblige à ce que tout le monde produise.
Non, mais en tout cas, pour en revenir, Tony, je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, mais tu te le payeras là, dans l'année qui vient. Tu auras bien un moment. Regarde le match de Strasbourg contre Fenerbahçe, c'est un truc rarement vu.
Ouais, j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais on m'en a parlé, quoi, que c'était un super bon match, quoi.
Moi, j'ai vu les Celtics hier soir. Ouais.
Moi, je
regarde.
Moi aussi.
Tout le monde l'a vu.
J'ai entendu.
Et tu sais quoi? Je vais me pousser le vice à faire les Knicks. Alors, t'as qu'à voir. J'en serai à 3 sur les 4. Alors, t'as qu'à voir.
C'est un sacerdoce chez Jacques.
Non, mais ils me mettent tout le temps sur les Spurs.
Et une qualification pour le top 16, alors, ça te semble jouable?
Ça s'est éloigné vendredi. Je pense que c'était vraiment un match tournant. Maintenant, il faut qu'on fasse un exploit entre le match à Khimki jeudi ou le Real la semaine prochaine. Bon, comme mon équipe est très déroutante depuis le début de saison, pour l'instant, elle a souvent réussi le plus difficile et raté le moins dur. Donc, on espère. De toute façon,
il faut jouer à fond. Voilà, il faut jouer tous les matchs avec le même la même détermination. Et puis on sait bien que c'est compliqué. Donc il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sublimer pour essayer de créer des surprises.
Vincent Collet, l'entraîneur de Strasbourg et de l'équipe de France dans Tipeee Show sur RMC comme tous les lundis. Vincent, on est avec Jean-Christophe, au 32-16. Salut Jean-Christophe.
Bonsoir messieurs.
Avec Tony bien sûr et Jacques Monclar. Jean-Christophe, on t'écoute.
Bah non, mais la question que je voulais poser un peu à Vincent, c'est un peu une question récurrente, c'est déjà peut-être de prévoir un peu ce qui allait se passer l'été prochain, notamment pour le tournoi de qualification olympique, et quelle était un peu sa stratégie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver fatigués de la saison NBA, d'autres qui vont être en renégociation. Est-ce qu'il a l'intention de faire appel à des joueurs de Pro A, à d'autres des joueurs peut-être un peu plus facilement mobilisables? C'est quoi sa stratégie là-dessus finalement, même si c'est un peu tôt pour y penser?
Alors bon, déjà effectivement on attend le tirage au sort, savoir où est-ce qu'on va être, dans quel des tournois on va être affecté. On va le savoir ça fin novembre, le 24 ou le 25, tout précisément.
Il y a 10 pays candidats pour l'organisation.
Oui, mais bon, il y aurait éventuellement un tournoi en Europe, il y en a un aux Philippines à coup sûr, et on ne connaît pas encore la destination du troisième. Mais quoi qu'il en soit, il me paraît difficile de faire deux équipes, une équipe pour se qualifier pour les Jeux, et une pour aller aux Jeux. Donc il faudra qu'on arrive à constituer un groupe pour les deux compétitions, sachant qu'il y a peu d'écart en temps entre une éventuelle qualification le 10 juillet et le début du tournoi olympique le 5 août. Donc à partir de là, il faudra qu'on fasse un groupe quand même d'assurer cet objectif-là. Bon, il y a une mobilisation. Je crois qu'il faudra qu'on soit intelligent en fonction des calendriers des uns et des autres. Il est clair que si les Spurs vont en finale NBA, ce qu'on peut leur souhaiter, de toute façon, ils n'auront pas besoin de s'entraîner beaucoup pour être en forme au début juillet. Voilà, il faudra gérer plutôt effectivement la récupération, sachant aussi que le groupe France, depuis 7 ans maintenant, vit avec les mêmes systèmes, avec la même organisation, et qu'on n'aura pas forcément besoin de beaucoup de temps pour pouvoir jouer ensemble. Ça, c'est un avantage.
J'ai une question pour toi Vincent, Jacques et Tony. Qu'est-ce qui est le plus embêtant dans la fin de saison qui arrive? C'est l'éventuelle avancée très loin d'un club NBA avec un Français, ou c'est le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs en fin de contrat et qui seront certainement agents libres pendant la période du TQO?
Pour moi, ce sont les contrats, très clairement, parce que des Français en finale NBA, au mieux ou au pire, c'est fini 20-21 juin.
Ils sont pas tous dans la même situation pour aller en finale NBA aussi.
Voilà, il y en a que pas 10 000 qui peuvent y aller, donc il y en a plein qui auront arrêté. Quand on me parle de fatigue, ils auront arrêté fin avril le début des playoffs, fin avril début mai. Il y en a déjà pas mal qui vont mettre le clignotant à droite, hop, à l'herbage, et derrière. Et quoi? C'est la réalité. Et derrière, mais si tu vas au bout, c'était sur une dynamique. Imaginons, Tony et Boris amenés à faire ça. Tiens, je vais le dire.
C'est à peu près les seuls, de toute façon.
Ils enchaînent le TQO direct, en faisant du repos. La parade, ce sera le plus dangereux. Tu fais le TQO, tu le fais dans la lignée de ce qu'a dit Vincent, avec le groupe France, avec les référents, avec tout ça. Par contre, il faudra un peu de repos avant les Jeux, si t'es qualifié. Voilà, c'est ça l'histoire.
C'est ce que j'ai prévu. Couper une bonne semaine après la qualification éventuelle.
Bon, mais Tony, tu peux faire les réservations.
Ouais, Tony, je t'ai gratté une semaine de congé, là.
Moi, il n'y a pas de problème, de toute façon.
Non, mais c'est pas cadeau. Hein. Dans l'absolu, c'est pas cadeau.
Non.
Parce que c'est le tirage au sort, parce que déjà, savoir où tu vas jouer, parce que si ça va en Serbie ou en Turquie, la zone européenne première, le tournoi qui va se passer en Europe, je suis pas surpris. Après, Philippines, et pourquoi pas un Porto Rico ou un truc comme ça.
C'est Mexique.
Canada, Mexique,
ouais. Qui se sont fait blouser par le Venezuela, et ben ils sont tous comme des fous à vouloir
le
organiser.
Le Venezuela qui avait organisé le dernier TQO avant Londres.
Déjà, comme info, je pense pas qu'on jouera la Serbie. La FIBA va organiser des têtes de série. Ouais. On sera tête de série, la Serbie également. Par contre, on a des vrais risques d'aller jouer en Turquie.
En Turquie.
Voilà, ça c'est effectivement beaucoup plus potentiel, parce que la Turquie est moins bien placée dans le ranking FIBA, alors que la Serbie est juste derrière nous, et que par conséquent on peut penser qu'on ne les jouera pas dans un tournoi pré-olympique.
Merci Vincent, Vincent Collet, d'être venu dans ce Tipeee Show.
Merci Vincent.
L'entraîneur
merci
de l'équipe
Vincent,
de France.
Bonne soirée.
Et de Strasbourg, bien évidemment, qui défie les meilleures équipes d'Euroleague et notamment Moscou cette semaine pour tenter de revenir dans la course au top 16. Allez, dans un instant, c'est Nicolas Karabatic qui est dans ce Tipeee Show sur RMC. Mais détour d'abord par les directs en cours. Gravelines Orléans, la proie de basket, Samuel Duhamel.
Il reste 7 minutes dans le troisième carton et pour l'instant, ce sont les Gravelinois qui sont devant, 49-28.
Et pareil pour toi, Jean Baumel, lance Nancy, c'est de la Ligue 2.
Et pour l'instant, c'est la mi-temps sur ce score de 0-0 avec deux équipes qui se sont neutralisées. C'est plutôt logique ce score à la mi-temps.
Direction le tournoi de tennis de Paris, Eric Salio, match en cours franco-français. Gaël Monfils est face à Benoît Paire, Eric.
Oui, 1h43 de jeu ici. Un set partout, 6-2 pour Gaël Monfils, 7 jeux à 6 pour Benoît Paire. Et dans le troisième, il y a 2-1 Monfils, service Benoît Paire.
A tout à l'heure et dans un instant, c'est Nicolas Karabatic, un autre champion au micro d'RMC dans ce Tipeee Show. A tout de suite.
RMC, 21h, 22h.
6 seconds to go.
Tony Parker Show.
Tony Parker with a goal.
François Giuseppi et Tony Parker.
Le Tipeee Show de retour jusqu'à 22h. Dans quelques instants, on reparlera bien évidemment basket avec l'actu NBA. Mais tout de suite, Tony, c'est le handball qui est à l'honneur parce que le premier rendez-vous de l'année 2016, eh bien, ce sont de nouveau les handballeurs qui vont l'inaugurer dans cette année olympique.
RMC France Olympique.
Avec un triple champion du monde, double champion olympique, triple champion d'Europe, 7 titres de champion de France, 3 Ligues des champions. Il faudrait un annuaire pour développer le palmarès de Nicolas Karabatic qui est dans ce Tipeee Show, Tony.
Ça va, Nico ?
Salut Tipeee.
Tu vas bien ?
Et toi ?
Ouais, ça va. Bah, c'est à toi qu'il faut demander. Hein. C'est toi qui est blessé là. Ça va le coude ?
Ça va, ça va. Ça pourrait aller mieux, mais c'est pas super grave. Mais une semaine de soins et de travail physique pour me remettre sur pied sera plus important, je pense, que les trois matchs amicaux à faire, ce qui fait beaucoup en une semaine pour
moi. Ouais. Donc il y aura pas de Golden League pour toi, là?
Pas de Golden League pour moi, non. Je reste à Paris.
Tu sens un peu la différence, alors, maintenant que t'as 31 ans, ça fait 10 ans maintenant que tu joues en pro, t'as l'impression que t'encaisses toujours aussi facilement les matchs ou ça commence à tirer?
Je pense que c'est pas forcément que j'ai 31 ans, c'est plus que j'ai passé 2 ans en Espagne, où le championnat était moins relevé que le championnat français qui commence à devenir un des meilleurs championnats au monde. Et du coup, enchaîner Ligue des Champions et championnat avec des matchs super durs physiquement, c'est sûr que c'est pas facile, mais bon, on s'entraîne pour ça. Pour l'instant, ça va, je me sens bien physiquement.
Et tu fais plus attention aujourd'hui à ta récup et aux soins, tu te gères différemment?
Ouais, je fais plus attention. On a aussi beaucoup de les méthodes qui sont améliorées, les méthodes de soins, les méthodes de récup, différentes machines qu'on a pour récupérer des coups, donc on travaille pas mal là-dessus, on a des bonnes installations à Paris, donc je fais plus attention.
Et à l'échappée d'Europe là qui arrive là en janvier, la qualif pour les JO de Rio, tu le sens comment alors cet Euro?
On a l'Euro qui arrive au mois de janvier, et c'est vrai que c'est particulier pour nous, parce que sur une saison où il y a les Jeux Olympiques, où il y a le gros objectif qui sont les Jeux Olympiques, en fait on a eu la chance, comme on s'est qualifié directement pour les JO en étant champion du monde, on a un peu moins de pression sur cet Euro. La seule pression qu'on a, c'est de défendre nos titres. Après on a une équipe où on a pas mal de blessés, on a deux blessés à Cambrai et Grébi qui sont fait les croisés, donc ça va, je pense que moi je me sens bien. On va Le truc, c'est comment l'aborder, parce qu'on va avoir une équipe un peu recomposée. On va sortir d'une saison avec beaucoup de matchs en club, en Ligue des Champions, en championnat, pour les internationaux de l'équipe. Et donc, il va falloir essayer de gérer l'Euro intelligemment pour pouvoir le gagner, pour aussi peut-être éviter qu'on ait d'autres blessés graves avec autant de matchs, parce qu'on sait que... On sait que l'important pour nous, ce sont les Jeux Olympiques, donc on veut arriver en forme pour l'été.
Ah, c'est sûr. Bah, y a les Bleus, il y a aussi le PSG depuis la rentrée. Ça te manque pas trop le soleil de Barcelone?
Écoute, hier il faisait beau à Paris.
Ça va.
Degrés, donc j'étais content.
Ouais, c'était le seul jour du mois.
c'est pas vrai,
je sais, Nico.
Il a fait beau jusque maintenant, mais bon, c'est sûr. Barcelone, c'est une ville en or avec le soleil et tout, le soleil, la mer. Donc c'était pas facile de partir de Barcelone, mais je suis content d'être à Paris, je suis bien. Mmh.
Et pourquoi avoir choisi le projet du PSG? Tu veux finir ta carrière là-bas? Parce que j'ai lu que le public de Montpellier, il n'avait pas été très tendre avec toi il y a quelques jours.
Ouais, pourquoi j'ai choisi PSG? Parce que, ça, regarde, c'est, si tu avais, toi, l'opportunité de jouer la NBA dans ton propre pays, je pense que ce serait quelque chose qui t'intéresserait.
Bien sûr, tu vas direct, ça, c'est clair.
Et donc, même si t'es à Barcelone, où c'était un club génial, un club historique, le meilleur club au monde, qui a gagné plein de fois la Ligue des Champions, avoir un projet d'un club qui veut devenir le Barcelone au niveau du hand et même omnisport, et faire partie de ce projet-là dans ton pays, en France, à Paris, dans la capitale, ben, avec des super joueurs, ben, ça m'a donné envie d'en faire partie, bien sûr. Et ouais, le fait que ce soit en France, que je sois plutôt en fin de carrière, pouvoir finir ma carrière en France aussi, c'est peut-être quelque chose d'important pour moi, pour les opportunités, pour l'après-carrière. Donc c'est un tout. Et après, bien sûr, jouer avec mon frère, ça m'a beaucoup motivé.
Nicolas Garbatic est l'invité de Stipi Show sur RMC. On est en ligne, Nico et Tony, avec Nicolas au 32-16. Salut Nicolas.
Ouais, salut Tony, salut Nicolas.
T'as deux grands champions en ligne, hein, Nico.
Ah, mais deux mecs, moi, qui m'ont fait rêver.
Pourquoi tu les mets au... Il faut pas les mettre au passé, ça continue.
non, mais bon.
Ils sont pas morts, ils ont plus de 30 ans, ok, mais quand même.
Non, mais par exemple, toi, Nicolas Garbatic, moi, je l'ai vu quand j'étais jeune et qui jouait en junior, et j'ai fait des compétitions où il était là,
et il est toujours là,
mais c'est vrai que ça a toujours été un monstre. Moi, on me disait que Jackson Richardson était le meilleur, mais incontestablement pour moi, c'est Nicolas l'a dépassé. Ben voilà, après, ça c'est mon côté gamin qui ressort, quoi. Et Tony Parker, quoi. J'ai un maillot d'Espoir chez moi. Voilà.
Nico, t'avais une question pour l'autre, ouais. Nico.
Ouais, voilà, je voulais savoir comment tu as pris la réaction du public de Montpellier, alors que t'as presque passé 10 ans dans le club, t'as marqué 568 buts, tu leur as fait gagner t'as gagné des titres avec eux. Je sais pas si t'as pas trouvé ça un peu ingrat quand même de leur part, de siffler comme ça par rapport à une histoire qui est vraiment extra sportive, quoi.
Un match de championnat, c'était la semaine dernière, dans la Park & Suite Arena à Montpellier, où le PSG se déplaçait avec Nico, puis sa première saison au PSG.
Ouais, c'est une bonne question. C'est toujours un peu particulier. C'est vrai que je suis pas parti dans des bons termes avec le club. Après, ce que j'ai trouvé dommage à ce moment-là, parce que je pense que le public m'a sifflé, pas parce que je suis parti, mais parce que au moment de l'affaire, quand je suis parti, on leur a fait croire que c'était à cause de moi que le club avait eu des gros problèmes financiers. Et là, cet été, on a vu qu'en fait, on a eu accès au compte et on a vu que le club était déjà dans des gros soucis financiers et que c'était pas à cause de moi. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, qu'on me siffle pour ça. Mais après, quand tu rentres dans un match, t'es blindé, donc tu l'entends, ça te motive plus qu'autre chose. Malheureusement, on n'a pas gagné à ce moment-là, mais bon. Mais pour moi, c'est pas grave, parce que c'était qu'une partie du public. J'ai eu aussi beaucoup sur ce match-là, beaucoup d'encouragement. J'ai eu beaucoup de gens sur le terrain, au bord du terrain, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit des mots gentils. Donc c'était super sympa. Mais après, pour moi, c'était pas très grave. Là où ça m'a plus embêté, c'était pour ma mère qui est venue voir le match et qui a entendu des choses pas très sympas dans le public et pas vraies. Donc c'est ça qui était un peu plus compliqué, qui m'a un peu plus touché. Après, pour moi, c'est pas grave, parce que je me suis fait huer en Croatie au championnat du monde en finale par 15 000 personnes, donc je suis un petit peu blindé à ce niveau-là, mais voilà, c'est juste pour un moment que j'avais décidé de venir voir le match et qui...
C'est sûr que c'est dommageable, quoi.
Ouais, mais c'est comme ça.
Et une autre question, justement, parlant de la Croatie, des championnats du monde qui arrivent, on a vu là ce week-end Sonny B. Williams donner sa médaille à un jeune garçon qui est rentré sur le terrain, vu que, bon, pour moi, je pense qu'en 2017, vous allez encore gagner. Est-ce que si un jeune garçon rentre sur le terrain, tu lui donneras ta médaille aussi? Parce que t'en as beaucoup, quand même.
Écoute, j'y ai pas pensé. Si on est champion du monde, si tu me garantis là, maintenant qu'on sera champion du monde, je veux bien la donner, il n'y a aucun problème. Hein. Je veux bien donner ma médaille.
Il y a qui à votre hauteur? Il n'y a pas grand monde.
Non, on a vu déjà au dernier championnat du monde, on était champion du monde, on a battu le Qatar à la fin, c'était serré d'un ou deux buts en demi contre l'Espagne, on a vu qu'on n'est pas passé très très loin, donc voilà, je pense que
jour d'aujourd'hui, il y a nous, le Danemark, l'Espagne, la Croatie, qui font partie des gros favoris. Et après, on a vu voilà, que des équipes comme le Qatar, l'Allemagne, la Slovénie sont vraiment très performants et peuvent nous faire tomber sur un jour. Mais c'est dans le sport, quand tu es favori, c'est pas facile de gagner tout le temps parce qu'on a beaucoup d'attentes derrière nous. Donc on sait qu'on a le potentiel, mais on sait que c'est difficile, c'est pas aussi facile que ça en a l'air.
Merci Nicolas au 32-16 tout d'abord, à très bientôt dans ce Tipeee Show ou ailleurs sur RMC. Bonne continuation et Nico, l'autre Nico Karabatic, on va le remercier aussi.
Merci
Tipeee. Nico. Merci.
Pas de problème. Dans l'histoire avec le trio qui a gagné le plus de matchs en NBA, c'est pas mal.
Merci, c'est gentil. Ouais. Ça commence à faire là.
Faut continuer, c'est bien.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Hein.
Bah, bonne saison à toi, hein. Bonne saison. Ouais, merci.
Toi aussi, je suis.
Merci Nico Karabatic, invité de ce Tipeee Show. On passe à toute autre chose. Grande championne là aussi dans ce Tipeee Show juste avant 22h. Elle a 27 ans, double championne du monde handisport. C'était au Qatar la semaine dernière en saut en longueur, record du monde avec un saut à 5,74 m et titre également sur le 400 mètres. C'est Marie-Amélie Le Fur qui est ton invité Tony dans ce Tipeee Show. Salut Marie.
Bonsoir.
Bah, toutes mes félicitations pour la semaine dernière.
Merci, c'est gentil.
En plus de tes deux médailles d'or, t'as remporté deux médailles d'argent sur 100 et 200. C'est une belle moisson pour toi. T'as fait un carton là.
Oui, c'est une belle moisson à la fois personnelle puisqu'il y a deux médailles d'or, deux records du monde, des records personnels sur l'ensemble des disciplines. Et c'est aussi une belle moisson pour l'équipe de France avec de très bons résultats, trois médailles d'or, une 16e place aux nations. Donc c'était de très bons championnats qui augurent de bonnes choses pour Rio.
Justement, ce record du monde à la longueur, tu l'attendais ?
Je l'attendais, je l'espérais surtout parce que ça fait pas mal d'années que je fais de la longueur maintenant à haut niveau. Malheureusement, chaque année en fait, j'avais des petits soucis de manque de confiance, de préparation mentale à l'approche des grands championnats. Et du coup, cette année, on a vraiment axé la préparation sur ça, sur le physique et sur le mental. Et ça m'a permis en fait d'aborder ce concours beaucoup plus détendu et d'aller chercher à la fois le titre et le record du monde.
Et à côté de ça, tu es devenue la première femme de ta catégorie à descendre sous la même minute hein, sur 400 mètres, c'est génial.
Oui, c'était une belle expérience. Voilà, pareil, on attendait depuis quelques temps d'aller chercher un bon chrono sur 400 mètres. Là, c'était assez compliqué parce que j'ai pas eu beaucoup de chance sur le couloir puisque j'étais couloir 8. Mais les coachs étaient confiants, ils savaient que j'étais capable de le faire. Le tout, c'était de prendre la course en main et de croire en soi et d'avoir envie d'y aller. Donc voilà, c'était une belle découverte et j'espère vraiment faire encore mieux dans les mois et dans l'année à venir.
Et tes deux médailles d'argent sur 100 mètres et 200 mètres, c'est de la déception ou c'est du plus ?
Non, ça peut pas être de la déception dans la mesure où je bats mon record personnel. Sur 200, c'est l'équivalent du record du monde, mais malheureusement pas homologué en raison du vent. Donc voilà, à chaque fois, c'est vraiment des très bons temps, des bons records, des courses qui sont bonnes, sauf que sur 100 et 200 mètres, j'ai simplement trouvé plus fort que moi. Voilà, j'ai été battue par la néerlandaise Marlo.
Elle est un peu intouchable, la hollandaise, elle est un peu intouchable.
Ouais, elle est vraiment, en tout cas, à l'heure actuelle, elle était intouchable sur ce championnat-là. Mais ça n'empêche pas qu'on peut toujours rêver d'or, soit pour les prochaines compétitions, soit pour l'année prochaine. Il faut continuer à travailler dur et à s'entraîner pour aller chercher la plus belle des places.
Et l'ambiance au Qatar, alors il y avait du monde, c'est bien ?
Alors malheureusement, non, on n'avait pas forcément beaucoup de monde dans le stade. Le stade était moins rempli qu'à Lyon en 2013, où là, on était encore sur la vague des Jeux de Londres, où voilà, le public français commençait à connaître le handisport, donc on avait un public un peu plus important. Cette année, voilà, il y avait simplement nos familles, les connaisseurs qui étaient présents dans le stade, mais on sait que l'année prochaine à Rio, voilà, on va toucher plus de personnes et on espère qu'en 2017 à Londres, on aura cet engouement de post-paralympique qui continuera à remplir les stades.
Et c'est pas trop dur de trouver sa place dans le sport français quand on fait du handisport, justement. Tu penses que les choses avancent assez vite à tes yeux ?
Je pense que dans le cadre du sport, enfin vraiment dans le milieu du sport, le handisport a trouvé sa place puisqu'on voit dans de nombreux teams de sponsors, dans de nombreux teams d'entraînement, les athlètes handisport qui sont mêlés aux athlètes valides, tout simplement parce que je pense qu'on a compris que on partageait les mêmes valeurs, on partageait les mêmes difficultés, les mêmes entraînements. Donc au niveau reconnaissance du monde sportif, voilà, le handisport est reconnu. Après, on a encore des difficultés à être reconnu au niveau médiatique et au niveau partenaire, par manque de médiatisation, par manque peut-être de densité aussi, mais les choses changent, les choses évoluent, et je pense que tout comme en 2012 on a connu un virage grâce aux Jeux paralympiques, en 2016 on risque d'avoir un nouvel élan sur le monde paralympique, puisque les performances et la densité sont en réelle augmentation depuis quelques années.
Dans le Tipeee Show avec Marie-Amélie Le Fur, double championne du monde handisport au Qatar, c'était la semaine dernière. Une petite question, Marie-Amélie, justement sur peut-être ton quotidien, comment tu densifies ta journée entre vie professionnelle, peut-être recherche de partenaires et de sponsors, et les entraînements également. C'est quoi une journée type ou une semaine type pour toi?
Alors les semaines types sont assez chargées, puisque j'alterne en fait un travail chez EDF détaché à 50%. Donc j'ai quand même un aménagement d'emploi du temps qui me permet de faire 50% d'un temps classique. Le reste du temps, c'est 9 entraînements par semaine hors période de stage. Et puis à côté de ça, bien sûr, il y a des contrats avec des partenaires, des temps de présence à honorer, du partage à faire avec mes différents partenaires qui sont indispensables à la vie sportive. Donc voilà, c'est des semaines bien remplies, beaucoup de charges d'entraînement, beaucoup de charges de travail, mais qui laissent quand même aussi un petit temps pour la vie privée, la vie personnelle, qui nous permet d'avancer au quotidien.
Mais en tout cas, félicitations à 27 ans, double championne du monde handisport. C'était en athlée saut en longueur et 400 mètres la semaine dernière au Qatar. Et bon jeu paralympique, hein, Marie.
Merci, c'est gentil.
À très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt Marie, ciao.
Au revoir, salut.
À bientôt, Amélie, dans ce Tipeee Show. Dans un instant, c'est une légende du basket, Hervé Dubuisson, qui est avec nous, et ses 254 sélections en équipe de France, c'est un record. Mais détour d'abord par les directs en cours. De nouveau, le basket, la proie Gravelines-Orléans, Samuel Duhamel.
Il reste 6 minutes dans cette rencontre et les Gravelinois ont 24 points d'avance, 67-43. Ils se dirigent vers une quatrième victoire cette saison.
Lens-Nancy, la Ligue 2, match en cours, Jean Baumel.
Et l'heure de jeu pile poil et 1-0 pour les Lensois qui ont ouvert le score il y a à peu près 10 minutes de cela, juste à l'entame de la seconde période, grâce à William Cyprien qui a trompé donc Guy Roland NDSMB, le gardien lancéen. Donc pour l'instant Lens, mais qui a peut-être obtenir sa deuxième victoire à domicile depuis le début de saison.
Direction le tournoi de tennis de Paris, Eric Salio, match en cours franco-français. Gaël Monfils est face à Benoît Paire.
Allez, victoire à l'instant de Benoît Paire sur le score assez improbable de 2-6. 7-6, 6-4, j'y ai improbable parce que Benoît Paire a été mené 6-2, 4-0 par Gaël Monfils et le Parisien n'a pas été capable de tuer ce match et donc Benoît Paire se qualifie pour le deuxième tour ici au Masters 1000 de Paris-Bercy où il retrouvera dès demain soir un autre Français, Gilles Simon. Monfils, saison terminée, saison à oublier.
À tout à l'heure, retour à l'actu NBA dans un instant avant 22h, c'est le Tipeee Show sur RMC comme tous les lundis.
RMC, 21h, 22h.
Six seconds to go.
Tony Parker Show.
Tony Parker with a goal.
François Giuseppi et Tony Parker.
Encore quelques minutes à passer ensemble dans ce Tipeee Show jusqu'à 22h, juste après, jusqu'à minuit. C'est Gilbert Bébois et toute l'équipe de l'After qui prend la suite. On attend bien évidemment vos appels au 3216 et sur le hashtag RMC Live sur les réseaux sociaux. Des questions, il y en a à profusion puisque nous accueillons dans quelques instants Hervé Dubuisson et ses 254 sélections en équipe de France. C'est un record. Le plus jeune international français de tous les temps, 15 ans, 9 points, 8 fois meilleur marqueur du championnat de France dans les années 80, une pointe à 53 points, c'était contre la Grèce avec l'équipe de France. On pourrait y passer la soirée, Tony. Nous avons un grand monsieur du basket dans ce Tipeee Show avec toi, Tony, avec Jacques Monclar. Il a sorti un livre aux éditions Ipanema, Une vie en suspension. Hervé Dubuisson est dans ce Tipeee Show, Tony.
Salut Hervé, ça va?
Ouais, ça va Tipeee.
Salut Dub, ça va ma poule.
Ah, ouais. Tout de suite les familiarités.
Ah bah oui.
Non mais Hervé, un grand merci, hein, un grand merci d'être avec nous ce soir. C'est un honneur de te recevoir dans ce show. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de sortir ce livre?
Ma vie est un roman en fin de compte et j'avais la maison d'Ipanema m'a proposé d'écrire ma biographie. Ça s'est bien passé. Elle est sortie. J'ai eu la chance aussi, du moins dans mon malheur, c'est que la fille qui a écrit le livre, son papa, Stéphanie Augier, pardon, son papa a eu un grave accident, il était traumatisé crânien, donc elle savait vraiment de quoi elle parlait, et pour moi, c'était une bonne occasion de d'écrire mon livre, voilà.
Justement, dans ce livre, on passe des rires aux larmes, tu parles de ton incroyable carrière, mais aussi de ton accident de moto en 2001 qui a failli coûter ta vie.
Oui, exactement, puisque maintenant, depuis, je peux plus entraîner, parce que je suis handicapé, à 100% pour mon métier d'entraîneur et 50% pour un autre métier. Donc, je m'en suis bien sorti quand même, parce que grâce à mon épouse, Madeleine, qui m'a beaucoup aidé, parce que j'avais perdu la confiance en moi et je pouvais pas me regarder dans la glace, tellement j'étais à tort d'avoir, comme il n'y a pas eu de coupable, un accident, pardon. Donc, j'ai beaucoup pris la responsabilité de l'accident, donc je me détestais. Mais heureusement que j'étais bien soutenu et on m'a sorti de là, quoi.
Comme moi, tu déclares souvent que tu es né sous une bonne étoile. Quand tu regardes en arrière, tu as l'impression d'avoir vécu plusieurs vies.
Oui, voilà. C'est exactement ça, parce que maintenant, je travaille pour le ministère Jeunesse et Sport et je m'occupe toujours du sport. Et je suis référent handicap étant handicapé. Et j'ai un excellent souvenir qui m'a remis en forme. C'est quand j'ai vu que tu as joué tes premiers matchs à San Antonio. On est allé à Los Angeles où j'avais fait les Jeux Olympiques avec mon épouse. On a vu tes deux premiers matchs en Californie.
Ah, trop fort.
On est avec Hervé Dubuisson dans ce Tipeee Show, Tony. Et Hervé, on est aussi avec Jacques Monclar, bien sûr, une très vieille connaissance.
Oui, Hervé. Ça se passe bien, cette nouvelle vie, parce que, bon, il a parlé de Madeleine, il est très entouré par Xavier, par Stéphanie, qui a été l'auteur du livre, et Xavier, qui est son avocat, qui s'occupe de tout un tas de choses et qui a amené Hervé qui a amené Hervé à se réaliser professionnellement maintenant. Maintenant, tu fais ta star, tu fais des signatures de livres, tu viens partout dans les salles, tu viens me voir, je crois, le 13 novembre. Voilà, ça se passe comment avec le bouquin qui pourrait. Alors, Tony, c'est un formidable témoignage de notre génération. Il y a eu un travail d'investigation et d'information assez remarquable. Et puis, il y a l'histoire d'Hervé en live, on l'a vu. Ça se passe bien, le bouquin, t'es bien reçu. Tout se passe bien.
Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, je viens d'une librairie, La Joie de Lire, à Antibes, où je suis reçu aussi. Voilà. Toi, tu connais, hein. Je n'oublierai jamais notre passage ensemble très jeune. Hein, tu m'avais même surnommé la blonde.
Mais toujours.
Donc,
toujours.
Voilà. J'étais toujours entouré de filles.
Qu'une histoire de filles, en fait.
On avait l'impression, il y a deux choses. On avait l'impression qu'il vivait dans un champ de tournesol. Et puis, la deuxième, c'est qu'il avait les cheveux longs, blondinés. Il a même fait des mèches à une époque. Et je voudrais remercier par la même occasion, Tony, et toi, tu vas y être sensible. Parce que, bon, je sais qu'à l'ASVEL, vous avez fait des trucs, mais l'Olympique d'Antibes, qui a fait aussi de Hervé son ambassadeur. Il est reçu à l'ASVEL, il est reçu dans tous les clubs français pour présenter son bouquin. Et il y a une belle solidarité de notre milieu, faut le dire quand c'est le cas.
C'est normal.
Oui, justement, je voulais saluer Frédéric Jouve, parce que maintenant je suis son conseiller sportif. Donc, par exemple, cet été, j'ai vu plein de cassettes de joueurs américains pour le recrutement et ça n'a pas mal marché parce qu'on a fait des bons pics. Et je travaille en collaboration aussi avec Julien et Spinoza et ça marche très bien. Voilà, je suis très heureux.
Parle du président d'Antibes et du coach d'Antibes.
Frédéric Jouve qui a apporté beaucoup et qui maintenant j'ai fait 25 ans de joueur et je commence mon début de carrière, peut-être 25 ans en tant que dirigeant, voilà.
Ça suffit.
Excuse-moi, je me la pète un peu, mais bon. Voilà.
Merci. Merci Hervé.
Bon, en tout cas, vous en avez vécu des choses, en tout cas, toi et Jacques.
On en a pris des petits déjeuners, oui. Tu connais ça, tu dis.
C'est la première chose qu'il a dit à Stéphanie. Jacques, Dub, je le connais. Hein, c'est la personne avec qui j'ai pu le plus grand nombre de déjeuners. Voilà.
Merci Hervé.
Merci.
Merci beaucoup Hervé. À très bientôt.
Hervé Dubuisson, 254 sélections en équipe de France, une vie en suspension, c'est à lire aux éditions Ipanema, et c'est à voir cette nuit Knicks Spurs avec Jacques au commentaire et Tony sur le terrain.
Demain à la c'est télé. Demain, c'est demain. Pour les gens qui ont le lit pas, c'est cette nuit. Moi, c'est demain matin 9h30.
Bon match au Madison.
Ah, ils aiment bien Pierre.
La semaine prochaine.
L'année dernière, ça faisait un peu désordre.
On va rectifier ça.
M'étonne. À la semaine prochaine, le Tipeee Show comme tous les lundis sur RMC. Bon match et bonne semaine aux Spurs et à toi Tony.